Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Si vous avez raté l'émission d'hier, ce qui serait dommage, mais toujours rattrapable en podcast, à condition bien sûr que vous sachiez ce qu'est un podcast, bon, à condition donc que vous ne soyez pas un Perceval ou un Caradoc, vous aurez compris que pendant toute cette dernière semaine de la saison 4 de Popopop, nous rendons hommage au seul roi que vous ne risquez pas de croiser dans les secrets d'histoire de Stéphane Bern, le roi Arthur de Pendragon, plus connu par les services de police ou du fisc sous le nom d'Alexandre Astier. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'un de ses talents qu'il exerce sous son patronyme que nous allons aborder, la scène, ou plus exactement le seul en scène auquel il s'est déjà livré à deux reprises, en évoquant la vie de Jean-Sébastien Bach et les exoplanètes, en posant la question de l'hypothèse d'une vie extraterrestre. Deux spectacles brillants, drôles et subtils, oui je sais, c'est énervant, et qui dénotaient dans l'univers surencombré des humoristes généralement plus occupés à parler du monde à travers eux-mêmes, certains proposant même parfois qu'on leur tire sur le doigt pour voir. Alexandre Astier et la scène, c'est donc le deuxième volet de cette petite collection. Et pop en ce mardi 29 juin 2021 de cette saison qui finit mieux qu'elle n'a commencé, c'est parti.
Pop. Antoine de Paule.
Et bonjour Alexandre.
Bonjour. C'est le pourvoir qui est terrible, tirer sur le doigt pourvoir. Je vous signale que j'ai bien peur que je vais y aller chez Bern. Je crois que je vais y aller chez Bern et ça vous fera bien mentir.
On vous signalerait la date de diffusion.
Absolument.
Que je puisse l'annoncer ici à renfort de corps de chasse. Ce sont des corps tout court. Bon, bonjour Alexandre, j'ai calculé. Bonjour. Nous ne sommes qu'à la deuxième émission de cette semaine spéciale Alexandre Astier et votre nom à l'antenne a déjà été prononcé 488 fois.
Ce qui est trop.
Est-ce que vous avez pensé à le déposer?
C'est un des rares trucs que j'ai pas déposé, mais ceci dit, oui, pourquoi pas. Oui. Comme une marque.
Évidemment. Ah oui. À mes côtés, Charline Roux. Charline, le costume, c'est pour rentrer dans l'histoire de Kaamelott, parce que là, aujourd'hui, nous parlons plutôt de l'exoconférence. Alexandre, ça vous va bien?
Non, c'est ma tenue tous les jours. C'est mon petit style, quoi. Enfin, hein? ne critiquez pas. Bonjour. Okay.
Autant pour moi. Avec nous, tout à l'heure, un ufologue, Pascal Pechner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ufologue? Nous allons le découvrir ensemble dans la seconde partie de l'émission. Alexandre, comme je sais que vous avez de nombreuses choses à vous dire, avec cet ufologue, je vous laisse la table ronde de la maison ronde pour débattre avant de nous retrouver dans la seconde partie de l'émission. Et en attendant, je vous propose de découvrir un univers qui devrait vous plaire, celui d'un autre Alexandre Bustillo et d'un autre, non pas Pascal, mais Julien Maury. Les deux réalisateurs du film The Deep House se rencontrent avec eux et avec la comédienne Camille Rowe, juste après le morceau We Us The Pharaohs signé de notre chouchou Maxwell Farrington et le super Omar qui vivent en terre bretonne, eux aussi.
A vine grows in the jungle like a line flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite in bracelets just a while. We, us the pharaohs, live for sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email thankfully. 5 million silhouettes on call yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the to call your own.
Us the Pharaohs, morceau signé Maxwell Farrington et le Super Omar dans Pop Pop sur France Inter, un homard forcément pêché dans les eaux bretonnes non loin de Kaamelott dans cette semaine spéciale Alexandre Astier. Vous écoutez Pop Pop. Et cette semaine, largement consacrée à Alexandre donc, et à l'arrivée tant attendue le 21 juillet du premier volet de Kaamelott. Alexandre que nous retrouverons dans quelques instants pour parler notamment de ce qui se passe au fin fond de l'espace. Mais en attendant, allons voir ce qui se passe au fond de l'eau grâce à un excellent film d'horreur sous-marin, car oui, Pop 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 est une terre de contrastes. Le film s'appelle The Deep House sur les écrans et il est signé de deux réalisateurs, Alexandre, il va falloir se calmer hein, avec les Alexandre, là j'en peux plus, Bustillo et Julien Maury, et de leur héroïne Camille Rowe, dont le programme instagramien Liberté, Égalité, Sensualité me convient parfaitement, surtout depuis que j'ai adopté un régime sensuel. Bonjour Camille. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Alexandre et bonjour Julien.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. The Deep House arrive demain sur les écrans. Pas parce que ça se passe sous l'eau, mais j'imagine que vous n'avez plus un poil de sec.
Oui, c'est vrai que là.
On fait pas trop les malins.
On est tout luisant.
On fait pas trop les malins à la veille de la sortie d'un film, non?
Ouais, effectivement. Surtout celui-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un film. Totalement atypique. Ouais. Donc c'est effectivement, ça se passe quasiment intégralement sous l'eau. Donc oui, on mouille un peu.
Charline, pendant que j'enfile ma combinaison de plongée, j'aurais dû l'attaquer.
C'est toujours pas une combi.
Racontez-nous de quoi parle Deep House.
Un jeune couple, Tina Wu, Camille et Ben, James Jagger, spécialisé dans l'exploration urbaine, urbex, décide d'aller explorer et filmer une maison dite hantée et qui a en sus la particularité d'avoir été ensevelie sous un lac artificiel. Et devinez quoi ? La maison renferme bien sûr quelques secrets.
Visibility is pretty good. We're reaching a first plateau 10 meters down. There she is.
I forgot how superstitious people are in these parts.
Wow.
What was that? What the fuck is that? No!
Don't swim!
Alexandre Bustillo, Julien Maury, vous aviez déjà sérieusement entaché l'idée de l'eau comme un élément réconfortant avec cette conception très particulière du liquide amniotique dans à l'intérieur. Mais là, comme on dit en plongée, vous avez passé un palier sans trop de décompression.
Oui, c'est paradoxal parce que nous, on était vraiment connus par nos premiers films qui sont très très gore et très violents. Mais celui-là, pour le coup, c'est peut-être notre film le plus grand public, vraiment.
C'est dire.
Notre film le plus ouvert au public, en tout cas, c'était un film vraiment qu'on a pensé comme une sorte de tour de train fantôme un peu ultime.
Ouais.
Vraiment une expérience immersive au maximum, qui s'adresse non pas qu'à une partie du public fan de gore ou d'ultra-violence, comme on a pu le faire dans nos précédents films, mais vraiment là, on s'adresse à tous ceux qui ont envie de vivre des vraies sensations fortes au cinéma, et qui ne sont pas forcément attirés que par l'horreur, en tout cas.
Ils vont être servis. Je suis un poil claustro, Charline est un poil claustro, mais surtout Camille était totalement claustro. Alexandre et Julien, est-ce que vous ne seriez pas, vous, un peu sado?
Bien sûr, parce que la première chose que nous a dit Camille quand on l'a rencontré, c'est « j'ai peur de l'eau, je suis claustrophobe ». Donc on l'a dit « c'est parfait, tu vas être parfaite pour le rôle ».
Julien, vous avez même ajouté bon la raison de plus.
Ouais, évidemment. Non, mais on s'est dit, elle jouera encore mieux. On est adepte du jeu vérité, nous.
Et vous, Camille?
Et oui, donc en fait, quand j'ai lu le scénario, je pensais vraiment pas que j'étais capable mentalement et physiquement de faire ce film. Mais bon, c'était super de les rencontrer, de discuter avec eux. Ils m'ont mis quand même un peu à l'aise. Et c'est vrai que, bon, en tant que comédienne, j'ai aussi envie de me pousser à faire des choses que je ferais pas. Dans la vie normale. Donc j'étais plutôt contente de le faire. Et en fait, en vrai, pour les claustros, de plonger, c'est pas du tout... c'est un sentiment plutôt agréable et...
Libératoire, oui. D'autant plus qu'Alexandre et Julien n'en sont pas à leur coup d'essai, hein, comme vous le rappeliez il y a quelques instants. Ils ont déjà bien fait peur à plein de monde depuis quelques années. Charline, rappelez-nous en quelques mots le casier de ces deux individus.
Avec grand plaisir. Avec nous, un couple de réalisateurs ayant inventé une femme qui veut littéralement arracher l'enfant du ventre d'une autre à l'intérieur. Une autre danseuse est maudite dans Livide, un studio de ciné désaffecté, peuplé d'une famille absolument monstrueuse. C'était dans Aux yeux des vivants. Ils ont raconté les origines de Leatherface et avec eux, une comédienne ayant, elle, été dirigée par Bec Bédé, Canet et Arnaud Viard. Camille, sachant ce que Julien et Alexandre font subir à leur personnage, et je ne parle même pas de la peur de l'eau, que n'avez-vous fui quand ils vous ont contacté?
Oh, elle est belle, elle est explorée des territoires nouveaux.
Oui, non, mais sérieusement, j'étais tellement contente, enfin, de leur parler. Ça a été très rapide. J'ai changé d'avis très rapidement.
Vous aviez vu leur film précédent?
Non, non. Ils m'ont donné tous leurs DVD.
Voilà, tout s'explique.
Oui, tout s'explique. Non, ils m'ont donné tous leurs DVD et j'ai vraiment trop peur de les voir. Vraiment.
Dites-moi tous les deux, vous travaillez depuis longtemps à quatre mains. Qui fait la tête? Qui fait les jambes? Qui fait le good cop? Qui fait le bad cop? Et j'aimerais aussi évidemment avoir le point de vue de Camille sur la question.
Bah, ça fait maintenant ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Mm-hmm. Et écoute, on n'a pas mis de, enfin il n'y a pas de vraie répartition des rôles à part pour le good cop bad cop. Et non, en plus ça change des fois, ça change des comédiennes, ça dépend de la scène à faire. Mais c'est vrai qu'on a on n'a pas de méthodologie de travail. C'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment au moment et on met plutôt à profit le fait d'être deux, c'est-à-dire qu'on est souvent dans des budgets qui sont assez limités et donc on a besoin de filmer beaucoup de choses en une journée et donc le fait d'être deux pour nous c'est vraiment un atout, c'est-à-dire qu'on fait presque les 3-8, il y en a un qui va parler au comédien, l'autre va régler le plan d'après, etc. Donc
Alexandre, le bad cop, il confirme?
Bah apparemment c'est moi. Non, c'est vrai que moi je suis plus sanguin que Julien qui est beaucoup plus calme et modéré, mais c'est aussi pour ça que ça marche tous les deux, c'est un peu la glace et le feu. Et mais après quand je dis bad cop, je suis très gentil, hein.
Oui,
et,
bien sûr.
Bon, mais oui, en fait, il y a Julien est un peu peut-être un peu plus sensible, mais en fait, on a envie de se prouver un peu plus peut-être avec Alexandre, donc parce que il est un peu plus bad cop. Donc mais j'aime bien cette dynamique aussi.
Traditionnellement, les gens qui se promènent rêvassent, profitent du paysage. Vous, Alexandre et Julien, vous en profitez pour vous raconter mutuellement des histoires qui font peur et qui vous servent ensuite de pitch pour les films. C'est ainsi que The Deep House serait né. Je ne sais pas si c'est une légende. Est-ce que c'est vraiment ça votre modus operandi? Vous vous baladez, parlez?
En tout cas, on adore se promener avec Julien. C'est-à-dire qu'on n'aime pas du tout les transports en commun. Dans n'importe quelle ville, on essaye de fuir le maximum les transports en commun pour se promener. C'est notre kiff. Et au cours de ces promenades, on se pitch toujours des idées improbables qui débouchent souvent sur de la merde, faut le dire. C'est souvent des grosses conneries. Là, la dernière fois, on était là à se dire, on devrait faire un film de vikings qui se bastonnent contre des ninjas, mais on se dit, ça intéresserait personne, en fait.
Ça m'intéresse.
Ah, bah voilà, oui. Ouais, ça serait super intéressant, le Japon féodal qui rencontre le monde des vikings. Bon, bref. Et un soir, en se quittant, une bouche de métro, on était là à se dire, mais qu'est-ce qu'on aime les films de maison hantée? On en avait déjà fait un avec Livide, notre deuxième film qui abordait le thème de la maison hantée. Et on adore les séquences sous-marines dans les films, ce qui est plutôt rare en fait au cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Et donc on s'est dit tout bêtement, si on essayait de combiner les deux. Et le concept nous est venu tout de suite, ainsi que le titre. Et sur la seule bonne foi du concept, la seule force du concept, on a eu de la chance de trouver un producteur tout de suite.
Si je résume, devant une bouche de métro vous inspire donc une maison hantée au fond d'un lac.
Complètement.
Avec des créatures. Pas possible. Oh, mais j'entends une maison hantée là. Mais c'est ça une maison hantée. Et puis de l'autre, il y a aussi un lac. Voilà. Avec des films sous l'eau qui sont plus rares. Vous avez donc, il fait un grand signe de négation, Julien. Non, c'est pas du tout ça.
C'est pas tellement l'ambiance du film, mais bon.
Laissez-moi finir ma phrase. Ça ne court pas les rues, les films d'horreur subaquatiques.
Non. Surtout ceux-là. Évidemment, nous on est assez fiers d'être un peu les premiers à l'avoir fait. Mm-hmm. On était même surpris d'ailleurs, parce qu'on s'est dit non mais ça doit exister, ça a déjà dû être tenté. Et en fait, comme on est quand même assez férus de films de genre avec Alexandre. on pensait pas avoir déjà vu ça, seulement dans des séquences, dans des moments de film. Mmh. Et par exemple dans le film de Neil Jordan, Prémonition, où il y a une longue scène comme ça d'exploration d'un village englouti. Et mais ça reste une scène. Et du coup, d'où notre naïveté d'arriver devant le producteur et lui dire, mais si on faisait vraiment la maison sous l'eau, parce qu'évidemment, on voulait le faire en vrai. On voulait pas utiliser de fond vert et faire des effets spéciaux numériques.
Tête du producteur
aussi fou que nous qui dit bah c'est impossible, faisons-le.
Et mettons des vikings.
Justement, grande injustice de ce tournage, Camille, vous étiez sous l'eau pendant que vos deux réalisateurs, eux, étaient a priori au sec. Comment est-ce qu'on dirige des comédiens quand on n'est pas dans le même élément? Et Camille, comment est-ce que vous êtes accommodée de cette direction pour le coup très particulière?
Alors on avait des oreillettes voilà dans le casque donc on pouvait communiquer un petit peu, mais c'est quand même très compliqué de communiquer sous l'eau. Donc en fait c'était beaucoup de avant de rentrer, on s'entraînait dans la maison avant qu'elle soit submergée, tout ça, donc tout était vraiment en détail.
On avait reproduit la maison en maquette et on faisait répéter tout avec des Playmobil. Voilà, et c'était vraiment utile.
On n'avait pas
le choix, parce qu'une fois sous l'eau, c'est très difficile donc justement de communiquer et avec les acteurs et avec les équipes. Donc il fallait vraiment être millimétré, c'était une prépa assez dingue sur ce film. C'était des heures et des heures de réunion avant de lancer le premier action de la journée. Donc c'était
Le résultat est très réussi, une direction artistique assez impeccable, et visuellement le film est incroyable. Bon, on va continuer à en parler, Camille Rau, Alexandre Bussillot et Julien Maury, mais d'abord petite pause musicale dans ce pop-pop-pop pour écouter Freaks. Tiens, ça devrait vous plaire ça, c'est un morceau signé Eddie De Pretto.
Rien à foutre d'être dans le coup, je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines, laissez les gens parler dans le fond. Gars, laisse-moi là dans le flou, tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent, j'ai de l'or dans mon moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui mais en avant et fier, ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, qui s'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks, 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 freaks. As-tu vu mes écailles quand je nage dans les rues? As-tu vu mes écorces là, qui me protègent à mon insu? Vu sentir mes balafres contre les casse-toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre, moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free. Seuls, ceux dans la...
Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Et Charline Roux. Et dans cette semaine spéciale Alexandre Astier, nous parlons aujourd'hui de The Deep House, alors qui n'est pas un film d'Alexandre Astier, mais d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, et aussi en compagnie de leur héroïne Camille Roux.
Les deux personnages du film sont des youtubeurs passionnés d'urbex qui filment absolument tout, ce qui vous permet, et ce qui est très malin, je trouve, de jouer la carte de l'immersion totale matinée un peu de found footage. Comment est-ce que vous avez intégré les images tournées par le couple dans le récit? C'était présent dès le départ, cette idée?
Ah, ouais. Ouais.
Alexandre.
Ouais, c'était vraiment notre volonté. Bon, on va partager les réponses, hein, c'est ce qu'on fait souvent, mais c'était vraiment notre volonté initiale, c'était vraiment justement de et dans la manière de filmer ce film, et dans la façon de le construire, d'être le plus tangible possible, le plus réaliste possible. Et le found footage, qui est pourtant un sous-genre assez décrié dans le film de genre, nous intéressait beaucoup pour ce côté un peu véracité qu'on voulait absolument attraper avec nos caméras. Donc c'était une vraie volonté.
Et ça amène du stress en plus, vraiment pour le coup.
Et puis,
ils sont pas contre.
En fait, c'est un niveau supplémentaire, c'est-à-dire qu'on est à la fois sous l'eau, donc environnement hyper anxiogène, dans une maison dans laquelle ils sont enfermés, donc hyper anxiogène, et effectivement avec des caméras portées, donc qui traduisent vraiment leur état d'esprit.
Et c'est l'air qui se raréfie.
Et l'air qui se raréfie, évidemment. On est vraiment pervers.
Mais oui.
Non, mais en fait, c'est vrai que nous, cette manière de les introduire, d'en faire des youtubeurs, c'était intéressant aussi pour nous parce bien sûr. Mine de rien, on fait donc du film d'horreur qui est censé donc se faire sursauter les gens. Et là, du coup, ça nous permettait de désamorcer aussi pas mal de scènes de films d'horreur qui en général met le public un peu dans le doute, qui dit mais je serais jamais allé à la cave, je serais jamais monté au grenier, mais qui sont cons et pourquoi ils font ça? Et donc du coup, nous, ils sont à la poursuite des likes, à la poursuite des vues, et donc ils cherchent justement le moment qui va faire que ce sera vu.
The Deep House, c'est certes un film qui fout les miquettes, hein, pour vous dire, j'ai même arrêté de prendre des bains depuis que je l'ai vu. Mais c'est aussi un film visuellement stupéfiant, aussi beau qu'oppressant. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre ces deux impératifs dans un environnement aussi complexe que ça?
L'idée, c'est de bien s'entourer déjà. Ouais. C'est avec les deux postes cruciaux qui sont le chef déco et le chef opérateur. Nous, on avait avec Julien conceptualisé un peu la maison, c'est-à-dire qu'on voulait une maison à la fois qui soit à la fois effrayante, mais pas non plus tomber dans le cliché du manoir gothique à la maison hantée de Disney un peu. On voulait pas non plus que ça soit qu'on arrive devant, on se dise ouais, c'est sûr qu'elle est hantée. On voulait une belle vieille maison.
Elle est très paisible cette maison.
Ouais, mais qui
joli petit jardin.
Qui distille au fur et à mesure ses horreurs quoi.
À l'anglaise.
En fait, c'était un travail vraiment main dans la main avec notre chef déco Hubert Pouille et notre chef opérateur Jacques Ballard, qui ont fait un travail vraiment remarquable où la lumière et la déco ont vraiment travaillé en parallèle pour arriver à ce résultat qu'on espère réussi et anxiogène, en tout cas.
Ça l'est.
Merci.
C'est une maison qui, d'ailleurs, alors certes immergée, mais donne l'impression qu'elle-même est dirigée. C'est-à-dire qu'au fil des promenades des deux personnages, on ne visite pas toute la maison. Donc on sent bien qu'il y a des trucs qu'on nous cache. Ça, c'est pareil, vous ne donnez pas accès à toutes les pièces, à tous les endroits.
C'est une question de budget, ça.
Moi, je pensais qu'il y avait une raison vraiment très esthétique et très d'intrigue.
Ouais, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas coupé tant de pièces que ça quand on a préparé le film, parce qu'évidemment, le budget impacte forcément la déco. Mais je crois qu'on avait coupé, on avait juste un petit...
Ils vont de la cave au grenier quand même.
Ouais, ça va, mais on avait une petite bibliothèque, un petit fumoir, une petite connerie qu'on a virée, etc. Donc on n'a pas trop perdu en termes de déco suite à...
Vous savez, c'est comme pour les enfants, il suffit qu'on dise qu'on n'a pas accès à une pièce pour qu'on ait envie de savoir ce qu'il y a derrière. Donc forcément, vous en jouez aussi dans le film.
Ouais, mais ça participe au suspense finalement, ces portes fermées.
Et Camille, vous, comment est-ce que vous êtes sentie dans ce décor? Alors d'abord, j'imagine, avant qu'il soit immergé, vous avez dû avoir accès aux pièces, et une fois qu'il était sous l'eau, comment vous êtes débrouillé, senti là-dedans?
Bah déjà, c'est hyper impressionnant par rapport au travail. Il y avait tellement de monde avec nous, tellement de gens qui ont bossé dessus. Donc c'était plus... j'étais vraiment... On est impressionnés. On est impressionnés et on est content d'être là. Et c'était agréable et presque un bonheur de plonger là-dedans. Même si...
C'était étrange.
Ouais. Non, mais bon, après, on se met... Voilà. Maintenant, on joue... Je suis Tina et ouais.
Camille Roux, vous êtes mannequin, un mannequin de ouf, pour reprendre les mots de Simon Restat, l'attaché de production de cette émission. Et vous, Alexandre et Julien, des réalisateurs de ouf aussi, mais vous n'êtes pas mannequin. Pourquoi?
Ah si.
Non, ça vous a jamais tenté.
On est trop vieux maintenant. Ouais.
Attendez, Camille Rowe, vous n'êtes pas la cousine américaine de Charlene Rowe?
Je vous remercie de faire remarquer publiquement qu'on n'a pas du tout la même hérédité. Je vous trouve très charitable sur ce dossier, Antoine. Merci.
Alors, parce que je suis moitié américaine, ouais. Et donc ma grand-mère maternelle américaine s'appelle Charlene Rowe.
Oh,
donc voilà.
Oh, incredible, but true.
C'est fou.
Bon, demande de votre partenaire James Jagger, le fils amique, hein, comme dit notre réalisateur.
On l'a fait tous comme ça.
De Suez, mon coucou est cassé Fontanus, et qu'on avait découvert dans la série Vinyle.
Ouais.
Parlez-nous un peu de James.
Alors James, on se connaissait un peu d'avant, on a des potes en commun, donc ça c'était plutôt cool de retrouver quelqu'un voilà, avec qui je m'entendais déjà bien. Lui, il avait déjà fait beaucoup de plongées, ouais. Donc il adorait m'expliquer.
Rassuré.
Voilà, ouais. Oui, ouais, m'expliquer vraiment tout ce qu'il fallait faire. non mais c'est un super comédien, ouais. Je trouve qu'il joue très bien le youtubeur, ouais. Voilà. Mais oui, très sympa.
Et cette voix,
il a vraiment la voix,
et cette voix, hein, qui en plus, ouais, pour le coup dans le film est extrêmement bien exploitée, parce que on l'entend parfois plus qu'on ne le voit, mais c'est quand même très étonnant.
Physique, hein, oui, dans le regard, c'est vrai.
Incroyable. Un plan où il est de profil, je crois, dans la voiture, c'est quand même.
Non, c'est vraiment son père.
Hein. Je m'attendais à ce qu'il se mette à chanter. Enfin, bon.
Sous l'eau, la gravité est différente. Alors bon, j'imagine qu'il y a des contraintes à l'exercice, mais aussi, est-ce que ça vous a aussi donné d'autres libertés, que ce soit dans le jeu ou dans la réalisation? Qu'est-ce que ça vous a appris, cet exercice?
En fait, c'est notre sixième long métrage, et on avait vraiment l'impression d'être au premier, de débuter. C'est-à-dire que tourner sous l'eau, ça a remis en question tout ce qu'on pensait avoir comme bagage de metteur en scène. Et du coup, comme le disait Alexandre, nous, notre rôle là, c'était vraiment d'être des chefs d'orchestre et des agglomérateurs de talents, et d'aller chercher les gens qui avaient beaucoup plus de compétences que nous. Ça nous a effectivement apporté énormément, enfin amené beaucoup de contraintes, mais apporté une grande liberté. C'est-à-dire qu'évidemment, sous l'eau, on peut faire tous les mouvements de caméra qu'on veut.
Comme dans l'espace.
Exactement comme dans l'espace. Et d'autant plus...
Il y a l'eau en plus.
Il y a l'eau en plus. C'est vrai, je ne sais pas comment... Et Thomas Pesquet, il faudrait lui faire une projection pour voir.
Ah oui, c'est le moment là. C'est le moment de lui envoyer le Deep House. Quelle bonne idée.
Surtout qu'en plus, on avait décidé donc de filmer l'histoire avec des caméras portées, donc type GoPro accroché au masque, plus un drone sous-marin qui suit nos deux personnages. Et donc ça nous a donné des contraintes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on donnait à nos comédiens non seulement des directions d'acteurs, de leur dire ce qu'ils devaient jouer, ce qu'ils devaient ressentir, mais aussi des directions de cadreurs, c'est-à-dire qu'on leur disait lève le menton, baisse le menton, tourne la tête à droite, on voit pas ce que tu filmes, etc.
Charlene le disait, le point de départ c'est l'urbex, l'exploration urbaine, c'est une pratique qui consiste à visiter des lieux abandonnés, et une pratique qui se fait évidemment sans autorisation, sinon c'est Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Vous êtes vous-même urbexien ou urbexeur, je sais pas comment on dit ça.
Moi je suis plus Stéphane Bern, moi. Non, alors c'est une pratique qu'on pratique pas, mais qui nous passionne assez avec Julien, parce qu'on aime beaucoup les ruines, les bâtiments dévastés. Alors, on en fait, mais vraiment de façon vraiment aléatoire, c'est-à-dire que quand on voit une maison abandonnée, quand on se promène, justement, on y va, ça nous arrive. Mais après, on peut pas se prétendre être pratiquant d'urbex, parce que les mecs, c'est vraiment une passion, qui font ça tous les week-ends, ils ont des spots secrets, il y a des forums dédiés à ça et tout, c'est un monde à part, hein, l'urbex. Donc, mais c'est assez passionnant.
Rassurez-moi, vous faites pas ça, vous?
Non. En fait, je connaissais même pas le terme urbex. J'appelais ça UberX.
UberX. Vous appelez un taxi, puis vous en mettez dans un endroit étrange, c'est ça?
Je lisais UberX, je comprenais pas trop, mais voilà. Bon, c'est intéressant. Après, du coup, on en a regardé quelques-uns. Mais...
Camille, quand vous étiez enfant, vous aviez horreur des films d'horreur. Et il paraît que c'est un traumatisme qui remonte à l'âge de 8 ans avec ce film.
Away from my baby! Get away!
Ça lui fait tellement peur qu'elle retire instantanément le casque dès qu'il y a le son de Poltergeist, évidemment. Alors maintenant, c'est vous qui faites des films qui font peur. C'est pour vous venger?
Non, je déconne. Non, en vrai, oui, je sais pas. Non, mais c'est ce que je disais un peu avant, c'était aussi de me pousser à faire quelque chose de différent, et puis peut-être aussi de, voilà, de vaincre cette peur, peut-être en faisant ça, en voyant comment ça fonctionne, peut-être que ça me fera moins peur, mais mais ça m'intéresse toujours, pas.
À faire, mais pas à regarder.
Voilà, à faire, mais pas à regarder.
Vous êtes beaucoup trop émotif pour ça, j'ai compris. Alors, dernière question, Julien, dans une interview accordée à Pure Break le 17 janvier 2008, à la question « C'est important lorsqu'on signe un film d'horreur de mettre autant la gomme en matière de carnage, quitte à faire intervenir de nouveaux personnages comme des bêtes à l'abattoir ?» Fin de la question, vous aviez répondu « C'est pas faux ».
J'aime bien développer dans mes réponses en général. Je suis assez cohérent.
Est-ce que cette réponse est un clin d'œil au...
Ouais, c'est pas faux.
D'Alexandre Astier dans Kaamelott.
Mais évidemment, tout est clin d'œil à Alexandre Astier.
Ah, tout est clin d'œil à Alexandre Astier. Merci infiniment de nous avoir rejoints dans cette émission aujourd'hui. Je rappelle que votre film The Deep House sort sur les écrans demain. C'est une bonne occasion en plus parce que c'est le début de la fête du cinéma.
Et ouais, et
donc allez, tout le monde dans les salles, tout le monde dans le noir pour se faire une bonne trouille.
Et après, à la piscine.
Et après, direct à la piscine, vous avez tout à fait raison. Merci à vous trois. Alexandre Astier est de retour dans Pop Pop juste après un morceau du groupe Queen of the Stone Age, Make It With You. With you, Queen of the Stone Age. Non.
Make it with you.
Ah, yeah, you. Faut faire you. Ok.
C'est comme vous.
voulez.
Make it with you, Queen of the Stone Age. C'est l'autre passion de Charline Roux avec Kaamelott. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture cette semaine de façon... Alors évidemment, dans le deuxième épisode de cette semaine spéciale Alexandre Astier, avec nous aussi Pascal Fechner, ufologue. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pascal Fechner, vous êtes ufologue, c'est bien cela?
Oui, tout à fait.
D'accord. Siri, tu peux venir un instant s'il te plaît? Siri, c'est quoi ça?
C'est mon costume de Kaamelott en hommage à Alexandre.
Mmh. On lui dira. Hein. Non mais je parlais de l'ufologue, moi. C'est quoi un ufologue?
C'est une personne qui étudie les objets volants non identifiés. Tout le monde le sait. Tu es vraiment débile.
Merci Siri. Allez, on dégage maintenant. Alors Pascal Fechner, dire je suis ufologue dans un dîner, ça claque.
Ça claque, mais il faut assumer derrière quand même. Il hein. faut être sûr.
Qu'est-ce qui se passe derrière?
Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors sur le coup, il y a... Alors parfois on confond avec urologue, ce qui peut être utile pour certains convives. Je précise, il n'y a pas de R, c'est bien un F.
Vous dînez avec Perceval et Caradoc, de toute évidence.
Voilà, donc j'ai eu parfois des appels et j'ai dit je ne peux rien pour toi, je suis désolé.
Bon, j'imagine particulièrement un dîner autour d'une table ronde.
Ça brûle, mais comment faire quoi? Voilà, exactement.
Bon, en réalité, Pascal, vous êtes directeur et rédacteur en chef de Maybe Planet, un site qui recueille et répertorie des documents relatifs à l'ufologie. Le rôle de ce média collaboratif et de s'interroger, d'étudier et d'informer, dites-vous. Alors comment vous interrogez-vous, comment étudiez-vous et comment informez-vous?
C'est vrai qu'en fait le Maybe Planet, nous le voyons comme un think tank de l'ufologie. Nous n'assénons bien sûr aucune vérité puisque nous n'en avons pas. Mm-hmm. Mais le sujet est passionnant, il est abyssal.
Certains en font des spectacles.
Certains en font même des spectacles, ou des séries même, effectivement. Et il me paraît important que des personnes proposent un support qui soit quand même relativement équilibré, c'est-à-dire parce que c'est un sujet qui peut vite partir à la dérive. Donc il me paraît important de proposer un cadre de qualité sur ce sujet.
Donc on ne parle pas d'illuminés, de gens qui voient des trucs...
On est sur l'illuminé de quelqu'un, mais voilà, on essaye d'être... raisonnable dans l'illumination, voilà, exactement.
Ouais, puisqu'on parle d'illumination, Maybe Planet, une référence, j'imagine, au Daily Planet, soit le journal dans lequel officie Clark Kent. J'en déduis que vous avez donc des infos sur Krypton ou ce qu'il en reste.
Ce qu'il en reste, oui, c'est... Voilà. Puisque la lumière de Krypton va nous arriver d'ici une centaine d'années. Mm-hmm. Donc oui, il n'en reste pas grand-chose, effectivement.
Ah, c'est si vite que ça.
Ah oui, ce n'est pas très loin, au final. Hein.
Alexandre, vous êtes auteur, réalisateur, compositeur, musicien, président de la République de Kaamelott et même roi, hein, mais vous ne vous attendez pas, si j'ai bien compris, votre spectacle, avoir des soucoupes ailleurs que sous votre tasse. C'est bien ça?
Alors attention, là vous entrez dans un sujet qui est quand même extrêmement délicat. Moi j'ai beaucoup étudié pour faire cette pièce et attention, l'étrange existe. Mmh. L'étrange est sur Terre. L'inexplicable est non seulement sur Terre, mais il est assez fréquent. Mmh. Et le truc c'est que moi je pense que quand un point d'interrogation se dessine dans le ciel, il faut, comme monsieur le fait, très vite proposer un cadre et proposer du sérieux autour de l'étude de tout ça. Parce que le mystère, c'est un sacré sujet. En revanche, on a un petit cerveau qui a tendance à remplir les points d'interrogation. Et c'est à partir de là où on le remplit avec des fantasmes personnels. Nous avons des yeux qui sont, je cite Neil deGrasse Tyson, qui est un grand astronome américain. Ce monsieur dit que l'œil est l'outil le pire pour pouvoir observer les choses. Que on voit très peu d'ondes de couleur, on voit très peu de choses, on distingue 20 images par seconde maximum. Ouais. Au-delà, on comprend plus rien. Donc, il faut se méfier de ce qu'on voudrait que ce soir. Mais à partir du moment où on s'intéresse à ce que c'est, le mystère est ici, il est quasiment quotidien dans le monde. Et justement, la question de ce que c'est énorme. À mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une visite d'une civilisation extraterrestre qui a traversé l'espace interstellaire pour venir nous rencontrer. Ça ne veut pas dire du tout que l'étrange n'existe pas, bien sûr.
Pascal, vous ne vous servez pas que de votre œil pour observer tout ça.
J'utilise mon troisième œil, bien sûr, oui, régulièrement. Mais là, je ne l'ai pas amené aujourd'hui.
Non, mais sérieusement.
Non, effectivement, c'est vrai que nos filtres personnels sont des vrais pièges. Il y a une espèce de sophisme, quelqu'un qui... On fait attention quand quelqu'un nous amène un témoignage, une des questions qu'on pose, c'est est-ce que vous vous intéressez à l'ufologie? Et ça, c'est un vrai signal. Si la personne dit oui, je suis fan d'ufologie, on peut se demander si la personne n'a pas voulu voir quelque chose qui est simple, une planète. Par exemple, les satellites Starlink, on fait beaucoup parler d'eux. Vous vous retrouvez avec 30 points lumineux dans le ciel avant qu'on sache ce que c'était. Ça a créé vraiment énormément de témoignages. Bon, une fois qu'on l'explique, tout va mieux. Mais il y a des gens qui restent avec un témoignage qu'on aurait pu expliquer et qui reste avec l'idée que c'est inexplicable, alors que l'explication est peut-être assez
simple.
Mais
alors pourquoi y croyez-vous, vous, aussi fermement ?
Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, je ne crois pas. Je réfléchis à la question. Mm-hmm. C'est vrai que ça étonne toujours un petit peu les gens, mais je ne suis pas dans la croyance, je suis vraiment dans l'interrogation. C'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'une forme de vie extraterrestre existe, ou extraterrestre, ou interdimensionnelle, ou temporelle, ce qu'on veut. Parce que ce serait vraiment dommage que nous soyons seuls dans tout cet univers. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis réellement dans la réflexion et pas dans le prosélytisme ou pas dans le dogmatisme. Ouais. Ce qui fait un petit peu la différence quand même.
Alexandre, quand et comment vous avez commencé à vous passionner pour ces sujets-là, pour la vie extraterrestre, pour ce qui peut se passer dans l'infiniment grand ?
Depuis toujours, j'aurais rêvé, je vais même vous avouer quelque chose, mon travail pour l'exoconférence m'a fait faire un grand virage dans ma vie à ce sujet-là. Je me suis dit, j'aimerais tellement qu'on soit visité, j'aimerais tellement qu'on ait été visité par le passé, je vais en fait prendre le prétexte d'un spectacle pour aller travailler avec les gens du GEPAN, pour aller travailler avec les astronomes français, pour aller travailler avec tout le monde qui s'intéresse à tout ça. Et en fait, cette étude m'a fait prendre le virage, mais en fait, c'est l'astronomie qui m'a fait prendre le virage, c'est-à-dire... très modestement, la petite conscience des distances, en fait, qui, à mon avis, sont infranchissables, mais pas infranchissables pour nous, avec notre niveau de technologie. Je pense qu'elles sont infranchissables tout court, parce que nous sommes à une période de notre univers qui a pratiquement 14 milliards d'années, et qui fait que depuis 14 milliards d'années, tout s'éloigne de tout. Chaque point de l'univers s'éloigne, chaque point de l'univers, et ce mouvement s'accélère en plus de ça. Donc, on est à une époque de notre univers où nous sommes très, 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 très loin de tout. Et je pense que il y a un petit peu le fantasme derrière tout ça de penser que la frise historique de l'univers, c'est de commencer comme une petite amibe avec un petit œil au bout, machin, et de finir sur deux pattes en train de fabriquer des vaisseaux spatiaux, ce que je conteste forcément. Je pense que ça, c'est de l'anthropocentrisme, et je pense que il y a un milliard de façons d'être évolué, voire même de plusieurs milliards d'années de plus que nous, et qu'à mon avis, ça ne prend pas forcément la forme technologique qu'on connaît. Je pense que nous n'avons pas les moyens d'entreapercevoir ce que pourrait avoir donné la vie ailleurs si elle avait 2 milliards, 3 milliards d'années de plus que nous. Je pense que c'est au-delà de notre conception.
Pascal Fechner, ça c'est des vrais arguments, ce que dit Alexandre Astier en ce moment.
C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, une forme de vie extraterrestre a pu se développer et qu'elle soit tellement incompréhensible que nous ne la voyons pas alors qu'elle est là. Hein. C'est tout à fait possible.
C'est pas avec la sonde Pioneer qu'ils vont avoir les infos. Hein.
Bon, La sonde Pioneer. Non mais là, écoutez, Pascal, si vous voulez me soutenir là-dessus, ce sera sympa.
Mais complètement.
Vous vous rendez compte que nous avons fabriqué dans les années 60-70 des sondes qui sont sorties de notre système solaire. Elles sont sorties de ce qu'on appelle l'hélio. Je me souviens plus. L'influence du Soleil. C'est-à-dire que vraiment, c'est parti. Il y a un objet humain qui est parti dans l'espace interstellaire, ce qui est quand même complètement dingue. Surtout avec la technologie de l'époque. Alors après, est-ce que le message était bon ? Je ne sais pas, il y a une plaque avec deux mecs à poil dessus, je ne sais pas, j'en
un
sais rien.
Un homme et une femme.
Un homme et une femme qui se tiennent la main, vous avez vu ?
Oui. Mais on a eu un retour. Hein.
Ah, il y a eu un retour.
Ils se tiennent pas la main.
Non, ils ne se tiennent pas la main, ils sont à côté.
Ils se tiennent pas la main parce que les gens avaient peur que les extraterrestres pensent qu'il s'agit d'un seul et même être si jamais la main tenue à quatre pattes et à une couille et machin. Ouais. Du coup, ils ont séparé les mains. Pourquoi vous riez ? C'est marrant, hein, chaque fois qu'on dit un gros mot, c'est Charlie.
Parce que vous avez dit couille, ça me fait rire.
On a des informations, Pascal. On a eu un retour. Une civilisation extraterrestre nous a renvoyé la sonde en disant arrêtez de nous envoyer des photos de nous, de vous à poil, avec le chemin de chez vous, ça nous fait flipper. Donc, c'était pas le bon message.
Bon, je le disais il y a quelques instants, tout ça, c'est à cause de cette exoconférence d'il y a quelques années déjà, puisqu'on parle aujourd'hui du Alexandre Astier seul en scène, ce qui lui arrive parfois quand l'envie le démange, et ça donnait ça.
Tout ça, c'est des galaxies. Et ce petit truc rouge, zoomé en haut à droite, là, c'est une proto-galaxie, une des premières petites briques de notre univers. Elle se trouve à plus de 13 milliards d'années-lumière de nous, c'est-à-dire que la lumière que nous en recevons aujourd'hui, elle l'a émise il y a plus de 13 milliards d'années. Elle est tellement loin et faible qu'il a fallu que le télescope Hubble effectue 111 orbites et expose cette photo pendant 8 jours pour obtenir, photon après photon, cette espèce de vague paix, rougeâtre, en fait, constituée d'étoiles bleues, curieusement, et considérée comme l'objet le plus lointain qu'on ait jamais observé et qu'on observera probablement jamais.
Aurions-nous des voisins dans cet espace infini ? C'est la question que vous avez posée au physicien Étienne Klein qui vous a répondu « on s'en fout ». Et là, vous aviez votre spectacle.
C'est-à-dire que oui, il pensait me violenter un peu avec le on s'en fout pas parce que c'est pas intéressant de savoir s'il y a de la vie dans l'espace. Je vais vous donner mon avis, alors vraiment de néophyte complet, je pense que l'espace grouille de vie. Grouille de vie sous toutes ses formes, primitives, ultra développées, forcément puisque les âges dans l'univers sont différents et que ça se compte en milliards d'années de différence selon les systèmes, forcément qu'il y a des trucs fous qui se sont passés, c'est sûr. Mais pour autant, on s'en fout parce qu'en fait, je crois qu'on n'aura jamais de contact parce que, comme je vous le disais, je pense qu'on est à une époque de notre univers où nous ne verrons pas nos voisins. Nous n'avons pas de voisins accessibles. Et je trouve que, je ne sais pas si mon camarade Pascal ici est d'accord avec moi, mais je trouve que la presse, de temps en temps, quand elle dit on a capté peut-être un signal qui vient d'une étoile qui est située à 15 000 années-lumière de nous, et on va peut-être pouvoir discuter avec, on est d'accord que la vitesse max dans l'espace, c'est la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'un signal radio qu'on enverrait mettrait 15 000 ans à leur parvenir, une réponse de nouveau 15 000 ans. Donc on est d'accord que bonjour, ça va, oui et toi, c'est 45 000 ans.
Ouais. Donc, c'est comme à la poste.
Exactement, à peu près, sans la queue.
Mais exo, c'est en dehors d'eux, donc s'intéresser à ce qui existe en dehors de nous, c'est un bon moyen aussi de soigner nos petits soucis de nombril.
C'est un petit peu à ça que sert l'exoconférence, très modestement, en disant avant de savoir si des mecs vont se pointer avec des fusils laser, en serrant la main forcément du président américain, on ne sait pas spécialement pourquoi lui, je pense qu'il faut juste regarder un petit peu les distances, ce que c'est que la vitesse de la lumière, ce qu'est la gravitation, ce que sont les quatre forces qui dominent un peu notre... Des petits trucs comme ça qui sont cool en plus à savoir, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de se forcer. Et après du coup, c'est vrai que la visite d'un vaisseau spatial extraterrestre commence à prendre une dimension peut-être un peu plus relative.
Aléatoire, mais alors je vous vois opiner, si je puis dire, mon cher Pascal, et pourtant ça ne... vous n'y croyez pas. Vous continuez à suivre cette piste.
Moi je dis toujours que réfléchir aux autres avec un grand A, c'est se définir soi-même, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien utiliser, faites de l'ufologie, prenez de la hauteur, et effectivement, de se dire, mais si une forme de vie extraterrestre venait, qu'est-ce qu'elle verrait ? Quelle image nous donnons ? Est-ce que c'est une image positive ? Moins positive ? Est-ce qu'on prendrait contact avec elle ? Voilà, je trouve que c'est un... Plus on va vers l'extérieur, plus en fait on rentre à l'intérieur de soi. C'est une espèce de psychothérapie.
Et puis il y a un goût du merveilleux, tout simplement.
Tout simplement.
Non, rester en éveil.
Le matin des magiciens de Bergier, qui était merveilleux et qui réimaginait le réel après une sortie de guerre. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que le livre a si bien fonctionné. Bon,
faisons une petite pause, si vous voulez, dans cette conversation. Et tiens, envoyons un morceau de musique à nos amis extraterrestres. Qu'est-ce qu'on pourrait leur envoyer ? Alexandre, vous avez une idée ?
Franzl Lang. C'est le roi du yodel.
Vraiment,
c'est bien.
On voit ça.
Ouais, moi je suis pour.
Pourquoi est-ce qu'on déciderait de manière snobinarde et parisienne de leur envoyer forcément un truc qui nous plaît ? Envoyons-leur un truc qui nous plaît pas.
On envoie du yodel dans l'espace,
s'il vous plaît.
Allez, c'est
ça
parti.
Se tente.
Ces quelques instants de grâce musicale vous étaient offerts par Alexandre Astier. Il s'agissait de Franzl Lang qui nous interprétait Der Appenzeller Jodler.
Je précise que je ne parle pas allemand et que si jamais des germanophobes à l'antenne découvrent que ce type dit des horreurs, je précise que je ne les soutiens pas, je ne les comprends pas. D'accord,
donc c'est
pas
ma faute. De quoi ça parle exactement?
Non.
Des Appenzeller.
Non. Bon, on verra.
Vraiment, vous savez pas?
Non.
Petite moustache là.
Non, je crois pas.
D'accord, ok.
L'exoconférence, le spectacle est mis en scène par Jean-Christophe Amber, que les fans de Kaamelott connaissent sous le nom de Caradoc. Alexandre, est-ce qu'il partage votre passion pour l'infiniment grand et quelle est sa touche dans ce spectacle? Est-ce que ce serait pas l'amour des couvre-chefs? Je sais pas si c'est lui ou vous, mais il y a quand même un truc de ce côté-là.
Mon camarade Amber a dû se faire à cette nouvelle idée après coup. Mais c'est vrai qu'il a permis la clarification de tout ça avec une mise en scène d'un coup qui était lisible. Moi, je pense que dans ma tronche, c'est beaucoup moins lisible que ça, les choses. C'est beaucoup plus fouillis. Ouais.
Parce que vous, Pascal, vous l'avez vu, ce spectacle?
Ah, plusieurs fois, bien sûr.
Alors, je voudrais le point de vue de l'ufologue.
J'adore. Non, c'est un spectacle intelligent. Il faut savoir que l'ufologie en France est très très peu traitée, je dirais même exploitée, que ce soit en spectacle ou même à la télé. On n'a qu'une série française qui s'appelle OVNI qui est passée en début d'année. Donc vraiment, c'est un sujet en friche en France. Intelligent, bien amené, superbe spectacle.
Non, parce que c'est assez facile en fait de rire de ces sujets-là. Ça aurait été facile d'en faire un sujet trivial. Or, vous en faites une démonstration qui est non seulement très très drôle, mais aussi très très intelligente.
C'est pas mal de le dire, mais c'est...
Je vous le dis.
Mais vous savez, je crois beaucoup, par exemple, je peux raconter une petite anecdote.
Allez-y, si elle dure pas de trois quarts d'heure.
On va voir.
Sinon, je renvoie du yodel.
En fait, une fois que j'étais, encore une fois, très modestement un peu instruit de tout ce que j'avais été chercher pour ce spectacle, tout ça, j'étais en voiture, et d'un coup, je lève les yeux, il faisait nuit, et je vois un objet qui fait plusieurs kilomètres de long au-dessus de moi avec des lumières sur toute la calandre extérieure. Je fais une embardée, je mets un coup de volant à gauche, à droite, je respire, je me dis attends mais réfléchis. Et c'était un phénomène qu'on m'avait décrit au GEPAN, que vous devez connaître, plein de fois. Donc on me l'avait décrit plein de fois, je le savais, je l'avais noté 40 fois. Il s'agit d'une fête, quelque part, d'un mariage, où on envoie des lanternes thaïlandaises. Vous savez, les petites lanternes en papier, on met une bougie dedans, l'air chaud les fait se lever. Mais du coup, comme on les envoie avec une certaine fréquence régulière, elles se retrouvent dans le ciel emportées par le vent, en file indienne, comme ça. Ouais. Et comme votre cerveau ne comprend pas sur quoi ces lumières sont posées, vous ne voyez en fait qu'une série de lumières qui ne teintent pas comme l'électrique, qui sont des flammes, et d'un coup, votre cerveau remplit ce qu'il ne comprend pas, et il crée une calandre autour de ces lumières. Et j'ai failli vraiment avoir un accident, c'est un truc qui m'a surpris. Pourtant, je le savais. Donc c'est pour ça que j'essaye de dire aux gens, c'est pas grave de vouloir. Ouais. C'est même très beau, c'est ce qui a donné tous les films, toute la littérature et tout ce qu'on fait. Par contre, remis dans le contexte de ce qui est possible et de ce qui existe, ça veut pas dire qu'on croit moins ou que le monde est moins merveilleux, ça veut dire qu'on prend les choses par l'étude et que d'un coup c'est une nouvelle modestie, une nouvelle humilité terrestre qui vient nous atteindre.
Vous dites la même chose.
Ah, si complètement d'accord, les lanternes thaïlandaises sont vraiment l'observation numéro un. Il est très difficile de faire accepter un témoin qu'il a vu des lanternes thaïlandaises parce qu'il dit non, j'ai vu quelque chose. Et on a un autre problème avec les lanternes thaïlandaises, c'est qu'elles nécessitent une autorisation normalement pour être lancées. Donc il est très 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 difficile de savoir si des lanternes ont été lancées quelque part. Enfin, si c'est un samedi soir, veille de fête, des choses comme
ça. Exactement, mariage, tout ça, etc.
Il y a quand même une très très grande poussée.
Mais le GEPAN a pris un couple qui avait vu des lanternes thaïlandaises, il les a mis dans deux pièces séparées, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. La femme a dessiné une petite lanterne, effectivement, ce qu'elle avait cru voir, et l'homme à côté a fait une petite lanterne, et il a mis trois petits atterrisseurs avec une petite silhouette à l'intérieur. Ils étaient tous les deux absolument de bonne foi. Il faut se méfier de son cerveau. Le cerveau, quand il comprend pas, il met plein de choses dedans.
Méfiez-vous des lanternes thaïlandaises, méfiez-vous des mariages même, d'une manière générale, je serais tenté
et
de dire.
Et du yodel.
Oui, de Franzl Lang. Si vous faites un mariage avec lancer de lanternes thaïlandaises et Franzl Lang en guest, ça commence à bien faire.
Là, ça déraille tout de suite. Bon. Merci infiniment, merci Pascal Fechner d'être passé, même pas débattre, parce qu'en fait, vous êtes d'accord sur l'essentiel, j'ai
l'impression. Mais c'est important, Jean, sache qu'on est bien sûr, on cherche à savoir, c'est
exactement.
Tout.
Exactement. C'est de la philosophie.
Absolument. Merci Pascal et merci Alexandre. entendre. Cette semaine spéciale, Alexandre Astier sur France Inter continue demain avec Kaamelott et son... Louis de Funès. Quel est le lien entre Kaamelott et Louis de Funès? Réponse demain. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets. 3615 Pop Pop Pop. Merci Charline.
Merci Antoine.
À demain et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Pierre-Yves de Rolin qui était à la technique aujourd'hui.